Bonjour à tous, vous allez entendre un message enregistré à la conférence Ascension 2018 organisée par Newground en France et Nouvelle Frontière France. Si notre famille d'églises ou les événements que nous organisons vous intéressent, n'hésitez pas à visiter notre site internet new-ground.fr.
Bon, on va juste vous partager un tout petit peu notre histoire, ce que Dieu a fait dans nos vies, de nous amener de la partie inférieure de l'Angleterre à côté de la Manche, à la partie inférieure de la France, à 10 km du mer Méditerranée, de la mer Méditerranée, excusez-moi. Et donc on va juste vous raconter un peu ce que Dieu a fait avec nous, même avant de venir, et puis un peu comment ça s'est déroulé à Montpellier pour nous. Donc je vais laisser Amel parler. Hein. Et voilà, on s'est disputé ce matin qui aura le dernier mot ce matin. Non, arrête, je laisse ça, je te laisse parler.
Ok, bonjour tout le monde. Alors Stuart m'a demandé de dire...
tu dis ce que tu veux dire.
Donc...
Attends, vas-y.
Quand on s'est rencontrés... J'ai vu ce jeune, moi j'étais pas du genre, j'étais vraiment pas prête à me marier, j'étais trop bien dans ma peau en tant que femme célibataire à 30 ans. Mais quand j'ai rencontré Stuart, j'ai vu l'appel de Dieu sur sa vie, et particulièrement pour la France et pour l'Afrique du Nord. Donc tout de suite j'ai dit Seigneur. Mais bon, ça ne s'est pas fait tout de suite, il y a eu des embûches le long du chemin, mais Dieu a eu le dernier mot, donc on s'est mariés. Et en fait, quand on s'était mariés, on était l'année de notre mariage, on vivait carrément à Paris. Nous étions déjà partis en mission. Mais ce n'était pas le timing de Dieu. Donc, le Seigneur nous a dit, retournez chez vous. Et nous sommes retournés pour une période qu'on pensait allait être de 2-3 ans. Mais vous savez quoi? On y est resté 17 ans. Je finissais par désespérer de l'idée de qu'on vienne. En fait, ça a toujours été mon cœur. Moi, j'ai atterri en Angleterre à l'âge de 21 ans et je me suis convertie assez rapidement. Et mon cœur a toujours été de revenir en France, de toucher plutôt les gens, les Maghrébins ou bien les Français. C'est plus ma culture. Donc, ça a toujours été mon cœur. Donc, retourner pour aussi longtemps, c'était un peu dur. Donc... Donc on est reparti, on a eu 3 enfants, on a fait plein de choses dans l'église, on servait du mieux qu'on pouvait. Et puis un jour, quand les enfants étaient à l'école, on commençait à se poser la question, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et donc on a pris un petit moment ensemble à prier et à demander à Dieu de nous dire, est-ce que peut-être cette mission-là, c'était destiné pour beaucoup plus tard, quand nos enfants seraient partis, etc. Donc, on était prêts à faire ça, moi y compris. Donc, on a prié et on a mis ça de côté. Et un beau jour, on atterrit dans une réunion de prière dans notre église à Brighton, à CCK. Et à notre énorme surprise, Dave Fellingham nous sort une prophétie extraordinaire. Il n'y avait pas d'autre prophétie pour personne d'autre, c'était que nous. Tous les deux venaient au milieu, on faisait un petit cercle au milieu et commençaient à prophétiser sur Stuart, comme quoi il parlerait, que sa langue serait déliée, qu'on ferait de l'évangélisation, qu'il était temps de reprendre les projets que Dieu nous avait donnés. Waouh! On était vraiment complètement... parce que seul Dieu savait, et nous deux, qu'on lui avait demandé de nous donner une réponse. Ceci a démarré tout un processus de recherche. On est venu en France pour des vacances. On avait entendu parler de l'église de Marguerite, donc on a été. On débarque à Marguerite, il venait juste de rentrer de mission de Kabylie. Et donc j'ai dit à Stuart, mais tu vois, c'est flagrant, on doit venir ici pour Marguerite, c'est bon, on fait nos valises et on s'en va. Mais... À mon grand désespoir, Stuart m'a dit, ouais, très bien, je vais prier, on va voir. il se met à prier. Et un jour, je lui dis, mais il t'a dit quoi, le Seigneur? Il me dit, le Seigneur m'a dit qu'il m'aimait. C'est pas possible. J'étais pas contente. Ok, le Seigneur l'aime, très bien. Donc, et le projet d'aller en France, non, pas aujourd'hui. Donc, mais après, il s'est avéré, et ça, c'était plus sérieux, son papa qui était, on venait d'apprendre que son père avait le cancer, son père qui était adorable, que j'aimais, qui m'aimait énormément. Donc, j'avais compris, non, ce n'est pas le moment, effectivement. Voilà. Et puis, ensuite, on a perdu son père, et là, je vais demander à Stuart de prendre la relève.
Heureusement, c'est possible que Dieu m'aime. Et j'ai jeûné et prié. J'ai pas pris ça au léger quand même. On savait qu'on allait partir en France et donc on a poussé un peu les portes et ça semblait pas tout à fait le bon moment. Mais on a gardé ça en tête. Et puis un jour, j'ai un peu calculé les âges de nos enfants, leur éducation. J'ai calculé un peu l'âge de ma mère et tout ça. Et je me suis dit, bon, si on y va dans un an, ça sera possible, ou sinon, il faut attendre 7 ans, probablement, au niveau de l'éducation de nos enfants. Donc, étant un parent cruel, on a pris la décision de partir en France avec nos enfants. Mais quelque part en moi, je me suis dit, je laisse cette idée de partir en France des années, des années, des années, et peut-être je ne le ferai jamais, et je le regretterai à la fin. Et je me suis dit, au moins, je vais essayer de tenter quelque chose. Si ça ne marche pas, si après non, c'est le désastre, on va rentrer en Angleterre, ce n'est pas la fin du monde. Je préfère être sur mon lit de mort en disant, j'ai essayé, et peut-être j'ai raté, mais quand même j'ai essayé. Donc on a pris, on est allé vers la France, vers Montpellier, un peu dans cet état d'esprit. J'avais un moment un peu clé pour moi, un an et demi avant qu'on est venu. On a essayé de déménager de maison. En fait, on s'est engagé pour acheter la deuxième maison avant qu'on ait vendu la première maison. Et la personne qui allait acheter la première maison a désisté au dernier moment. Et c'était aussi le moment où la crise économique a frappé. Et donc, je me trouve avec un énorme prêt de maison et j'étais très inquiet. Et je me rappelle que j'ai prié pendant nos vacances cet été-là devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne vais jamais prendre des risques comme ça. Je serai super prudent dans l'avenir parce que j'aurais dû partager mes projets avec quelqu'un. Je n'aurais pas me trouver dans cette situation-là. Et j'ai senti un reproche du Seigneur, du fait que le Seigneur voulait que je dise oui à lui pour prendre des risques. Et je pense que ça, pour moi, c'était un moment clé de dire, OK, Seigneur, je ne dirai pas, je ne prendrai pas de risques. Je vais prendre des risques pour toi. C'est un peu une longue histoire, mais bon, on est venu en France, on est débarqué en France avec 3 ados. C'est la chose qu'il ne faut pas faire, mais on l'a fait. Et on a des enfants qui sont super gentils, qui nous avons beaucoup pardonné. On est venu, on s'est dit, bon, on va essayer, si ça ne marche pas après, non, on va voir. On est allé à l'église de Marguerite, on s'est commencé à nous intégrer dans la société. Il y avait beaucoup de bricolage à faire à la maison. Pour gagner ma vie, je prenais EasyJet pour travailler en Angleterre parce que c'était le meilleur moyen de pourvoir nos finances. Et c'était un grand changement pour nous en tant que famille. Ce n'était pas tout à fait facile. Et pendant un an, on ne faisait que de nous intégrer, de nous installer en France. Mais après un an, on a commencé à ce que le projet pour lequel nous sommes venus en France, c'est-à-dire essayer d'implanter une église à Montpellier. Donc, je te laisse parler un peu des premières parties de ça.
On commence. On a passé toute une année à Marguerite et la deuxième année, c'était une semaine sur deux. En fait, la maison qu'on a achetée, c'était très, très simple. On est venu en avril, on avait 10 jours pour trouver une maison. Et on l'a achetée, pourquoi? Parce qu'il y avait une grande pièce en bas, qui était assez grande pour démarrer une église. On avait une salle pour commencer à démarrer. Alors, c'était un peu rigolo. À ce moment-là, on avait quand même une petite équipe de 12, peut-être, plutôt des Anglais. Il y avait la famille Norcock et leurs trois filles. Il y avait quelques personnes qui étaient à Marguerite, mais qui vivaient à Montpellier, donc ils nous ont rejoints, etc., etc. Et pour la louange, alors Ben ne savait pas jouer de la guitare et chanter en même temps. C'était vraiment... C'était rigolo, mais à force. Non. Mais on a persévéré, il a persévéré, il a appris à chanter, jouer de la guitare en même temps et tout ça. Donc on commençait à les gens commençaient à venir et ce n'est que lorsqu'on a commencé toutes les semaines que ça commençait à bouger vraiment. Tant qu'on était une semaine sur deux, ça n'allait pas. Donc un jour, Stuart m'a dit, maintenant ça va être toutes les semaines, j'ai failli mourir parce que recevoir du monde tous les jours, préparer la musique, préparer la maison, on mangeait, on faisait des repas ensemble tous les jours, c'était assez compliqué, le dimanche hein, bien sûr. On a commencé jusqu'au jour où une fois on s'était retrouvés à plus de 40. Donc, il y avait des gens qui venaient avec des vélos, c'était des Hongrois. Tout d'un coup, il y a ces gens-là dans le couloir avec leurs vélos, des chrétiens, des non-chrétiens, tout ça. Donc, il était temps pour moi de commencer à chercher un local. Donc, vers le mois de juin, il me semble, après quelques 8 ou 9 mois, on s'est cherché un local et on commençait à démarrer l'église. Donc, voilà, je te laisse la parole maintenant.
Oui, le début de l'Église, c'est une période un peu fou. Il faut garder un bon sens d'humour pendant cette période-là parce que, en fait, notre expérience, c'était qu'il y avait plein de gens qui sont venus. Il y avait des gens qui nous rendent des visites. On avait des moments un peu bizarres, un peu humoristiques dans ces moments-là. Par exemple, il y avait Guillaume Ollier qui était avec nous et un jour, il est dans le tram pour venir chez nous. Et il y a un gars dans notre tram qui constate qu'il porte une guitare. Donc, il commence à parler avec ce jeune homme qui rentre après une nuit dans les bien arrosés à Montpellier. Et il vient au culte avec nous. Donc, il est là au culte. On lui a donné un très grand café qui lui a fait du bien. Et puis, on ne le revoit plus. Mais bon, c'était un peu amusant. On avait plein de petites choses comme ça qui sont arrivées le matin où on a dépassé, en fait, on avait, pendant un an, on faisait des rencontres tous les deux, tous les trois semaines, et on mangeait souvent ensemble, on avait des bons moments ensemble, mais nous étions que peut-être douzaine, quinzaine, 18 personnes peut-être pendant cette période-là, et lorsqu'on a commencé tous les dimanches, on était peut-être une vingtaine, 25 personnes, mais il y avait le jour où ça s'est passé à 46 d'un matin. Et c'était un matin un peu fou. Au milieu du culte, on est tous serrés dans notre pièce en bas. Et quelqu'un me dit, il y a des gens dans votre couloir. Donc, je vais voir dans le couloir. Il y a deux Hongrois chrétiens et deux Hongrois non chrétiens qui ne parlent ni français ni anglais. Hein. Et c'est un monsieur avec qui on a échangé mais il y a 6 mois. Et tout d'un coup, il débarque chez nous avec son fils et avec deux non-chrétiens aussi. Donc, il y avait des moments un peu, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et il y avait des bien sûr, lorsqu'on commence quelque chose dans une maison, peut-être on commence quelque chose qui n'est pas église formelle, il y a des gens qui veulent voir. Et souvent, c'est des gens un peu qui tournent dans les églises et qui ont été rejetés par d'autres églises. Donc, on les a accueillis avec amour. Donc, il y a certains qui se sont restés, qui sont devenus des membres qui sont super chers, qui sont super bons pour notre Église. Il y a d'autres qui sont partis. On avait une famille de Malgaches qui venait pendant un temps et je leur ai demandé de faire un peu de musique et j'arrive. Ils sont déjà installés pour la musique avec les guitares électriques, le piano, les amplis et tout ça. Et je dis, mince, c'était juste pour une réunion de prière. Et voilà. Et donc, on a rencontré plein de gens un peu bizarres. Mais il y avait un moment où on avait Stan qui venait. Stan, c'était un ancien, c'était un alcoolique qui vivait dans un foyer à Montpellier. Donc, il est venu et c'était très marrant. Il est tombé amoureux de quelqu'un dans l'église. Il est tombé amoureux de Barbara Vanesse parce qu'il a mangé chez elle une fois. Et Barbara, elle est super anglaise Elle a une image de Barbara, son ancien mari, et la reine de l'Angleterre. Donc Stan, il disait, c'est une femme de qualité. Donc il a mis sa cravate un peu à travers pour l'impressionner. Donc il y a plein de trucs comme ça qui se sont arrivés, mais je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça. Mais bon. Voilà. Mais bon. Le début de l'Église, je pense qu'il y a quand même, c'était un moment clé. Je pense qu'il y a certaines choses qui ont été semées dans notre Église à ce moment-là, qui sont très importantes, qui demeurent toujours aujourd'hui. Je pense par exemple, le fait que nous avons mangé beaucoup ensemble, que nous avons passé du temps ensemble après le culte, ça ne reste pas dans la même forme maintenant, mais il y a toujours un apéro après notre culte. Il y a toujours une très grande ambiance familiale dans l'Église. Et la naissance de ça, c'était dans les premiers moment de l'Église. J'ai lu un livre qui a été écrit par un Américain, Ed Setzer, qui parle de, c'est un expert dans l'implantation d'Église, etc., etc. Il parlait des composants dont on a besoin pour une grande implantation d'Église. Il parlait qu'on avait besoin d'un pasteur, d'un évangéliste, de quelqu'un pour s'occuper des enfants, pour quelqu'un qui faisait la service et quelqu'un qui faisait la louange. Et lorsque j'ai commencé à penser, nous avions environ 12 personnes dans notre équipe au début. Donc il y avait moi, c'était plutôt le pasteur. Il y avait ma femme, c'était plutôt l'évangéliste. Il y avait mon fils qui jouait la guitare, qui dirigeait la louange. J'avais ma fille et aussi Helen Norcock qui s'occupait des enfants. Et on avait Barbara Vanesse, âme secrète, qui faisait les services. Qui m'a dit, je n'ai pas de don, mais je veux servir le Seigneur. Et je viens pour servir le Seigneur. Elle a super bien servi le Seigneur en faisant des choses pratiques. Elle est vraiment une force dans notre Église. Et donc, on avait tous les composants dans 12 personnes. Et je pense que ça, c'était important quelque part, parce qu'on avait des clés, on avait ce dont nous avions besoin pour commencer. Donc, on va vous dire un peu plus comment ça s'est évolué depuis. Je laisse Amel.
Alors, une des choses que peut-être on a omis de dire, c'était que quand on est parti de Brighton, franchement, l'Église a prié. Et dans toute implantation, quelle qu'elle soit, vraiment, il faut qu'on prie pour les gens qui vont implanter. On s'est senti soutenus. Il y a encore des personnes qui prient pour nous. Certains prient de temps en temps. J'ai des amis qui prient pour nous tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose de très important. On a aussi deux personnes qui nous avaient fait un don tout à fait au début. C'était super encourageant de recevoir un petit don. Donc voilà, pour le début d'implantation, c'est pour nous de penser plus tard, quand on envoie, c'est surtout de prier, mais aussi d'encourager par la parole, mais aussi d'encourager par donner des dons quelquefois. Alors plus récemment, on a fait plusieurs week-ends d'église, maintenant on en est au quatrième, je pense. On a eu beaucoup d'encouragement, on a toujours des non-chrétiens chez nous. On a eu des conversions. Alors, une dame qui s'appelait Annie, qui était femme de ménage, un jour Stuart et Guillaume vont lui parler à la fin du culte, il lui dit « Pourquoi est-ce que vous ne reviendrez pas assister au culte ? » Elle faisait le ménage très très tôt le matin. Et un jour, elle rentre chez elle, elle dit oui, d'accord. Mais un jour, elle rentre chez elle et elle se change, elle revient avec son mari. Donc, son mari devient chrétien, elle aussi. Après, lui, il avance beaucoup plus qu'elle. Juste après qu'on ait déménagé de chez nous, je partais un petit peu plus tard que Stuart, donc j'étais en train de me préparer, quelqu'un sonne à la porte. Et c'était un couple qui disent « Nous sommes venus pour l'église ». J'aurais dit « Mais c'est plus ici l'église ». J'ai dit « Par contre, restez dans la voiture, je me prépare et je viens avec vous si vous voulez venir ». Et le gars me regarde dans les yeux et me dit « Ça, c'est pour elle, c'est pas pour moi ». Donc c'était une femme de Guadeloupe. Hein. Annette venait juste de devenir chrétienne avant de venir, mais il y avait des choses, un cheminement à faire. Donc on s'est beaucoup occupé d'elle. Mais 3 ans plus tard, un beau jour, franchement, j'étais assise à ma place, comme d'hab, et je regarde derrière moi, et que vois-je ? Olivier Patarin, son mari. Il venait de temps en temps pour un apéro, il était très sympa, mais à l'église, c'est pas possible, c'est pas normal. Donc je le regarde bizarrement, et en fait, c'était juste avant le week-end d'église, et il vient au week-end d'église, cette fois-ci, il assiste aux réunions, Et à la fin du week-end, il donne son cœur au Seigneur. Donc, franchement, ils sont retournés en Guadeloupe maintenant. Malheureusement, un petit peu prématurément, mais c'est une autre histoire. On a eu d'autres, plus récemment, une parole de connaissance un dimanche matin. Une femme commence à hurler dans la réunion. Et donc, les gars la sortent de la pièce, etc. Et pour faire court, en fait, c'était un membre de l'église qu'il avait rencontré la veille à la CLC de Montpellier. Il la sort, elle donne son cœur au Seigneur, elle reçoit plein de délivrances. Mais après, elle vivait avec son homme et on attendait qu'est-ce qui va se passer. Au mois d'octobre, on a fait une journée sortie de l'église et pour faire des baptêmes. Donc, on l'a baptisé, il est venu. Et très, très vite après, il a voulu nous voir. Il voulait donner son cœur au Seigneur. Donc, on a passé du temps avec lui. Sébastien a donné son cœur au Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses à résoudre, mais c'est extraordinaire. Sa fille, à elle, a donné son cœur au Seigneur. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est des familles recomposées. C'est très compliqué. Mais Dieu nous aide à toucher des gens de toutes. On n'est pas une église middle class qui ne touche que des gens... avec beaucoup d'éducation et beaucoup de... Voilà, c'est le contraire. On a beaucoup, beaucoup de cas de choses compliquées. Mais voilà, Dieu nous a toujours donné la grâce d'avoir des non-chrétiens parmi nous. Moi, je travaille dans l'immobilier. Je dois dire que depuis le départ de Barbara du village du Crès, il n'y a personne au Crès que je connaissais vraiment en qui je pouvais donner des clés ou quelqu'un. En ce moment, il y a 5 foyers qui deviennent de vrais amis. Tout ça parce que j'ai vendu une maison à tel ou ensuite je rencontre les voisins, etc. etc. Donc vraiment, on s'aime énormément. Et je sais que d'autres membres de l'Église sont dans la semence et on a la joie aussi de récolter pas mal aussi. Donc voilà.
Juste pour dire que l'Église est beaucoup plus grande, beaucoup plus stable. Maintenant, on est environ 80-90 personnes et on a 6 groupes de maisons, on a un groupe d'étudiants. Il y a beaucoup de choses qui sont évoluées avec le temps. Et ça a été tout un acheminement de le faire. Je me suis posé un peu la question, quelles sont les choses que j'ai apprises par cette expérience. Je pense que ce que j'ai appris, en bref, c'est qu'il y a besoin d'une équipe pour implanter une église. Il faut vraiment prier pour des équipes. Je pense que même malgré le fait qu'on avait une petite équipe, on avait des composants nécessaires pour faire quelque chose. Je pense que c'est essentiel de prier. On était beaucoup soutenus par les prières de notre église à Brighton avant de venir et dans les premières années de notre implantation d'église. Et je compte ça super important pour la réussite de ce que nous avons fait. Nous avons eu un suivi. C'est pas ce qu'on va dans le vide et on implante une église. On a besoin des autres qui nous envoient, qui nous côtoient, qui nous donnent des conseils. Ça, c'est super important. On a eu des directions prophétiques. On a eu beaucoup de paroles prophétiques avant de venir. On a eu des paroles prophétiques pour notre église actuelle qui un peu dirige la direction pour l'avenir. On a des paroles qui parlent d'un bol qui verse dans d'autres bols. On a eu des paroles comme le tour Eiffel qui fait un seul édifice, mais 4 pieds de cet édifice. On a une parole comme nous serons comme une montagne qui se soulève au-dessus de la plaine, qui va être voie de loin. On a une vision pour notre église qui que ce soit une église qui va aider d'autres églises, qui va être une ressource pour d'autres églises. On a eu plusieurs paroles prophétiques qui un peu forment notre vision pour l'avenir. Je pense qu'on a toujours bâti sur parole et esprit. Je pense qu'on a besoin des deux. On a toujours essayé d'enseigner les paroles de Dieu en français dans nos cultes, mais on a besoin du baptême, de la puissance du Saint-Esprit. On a vu peut-être une dizaine de personnes facilement baptisées du Saint-Esprit dans nos réunions ou lorsque j'ai prié avec eux. C'est vraiment une bénédiction de voir la puissance de l'Esprit agir dans les vies des gens. Les gens ont besoin de ressentir la puissance du Saint-Esprit, d'avoir une expérience de Dieu. Et le Saint-Esprit touche les gens. Nous avons toujours eu à cœur la mission. Si on est une petite église ensemble et on ne voit pas personne qui se tourne vers Dieu, je me pose la question, est-ce qu'on devrait exister en tant qu'Église? Mais on a toujours eu la prière, Seigneur, nous envoie-nous des non-chrétiens. Et même lorsqu'on avait 12 personnes dans la salle, je me rappelle, trois dimanches de suite, j'ai prêché à 12 personnes, mais il y avait un non-chrétien dans la salle à chaque fois. Donc c'est toujours notre passion de voir des non-chrétiens qui tournent vers Dieu. Et c'est super important de construire une famille vraiment avec des valeurs de communauté, de vrai amour, de l'authenticité, pas de la religiosité, mais quelque chose d'authentique. La France a besoin de voir des chrétiens authentiques, vrais, réels, sans religiosité, sans apparence, mais qui sont et voilà. Donc tu as quelque chose pour finir.
En fait, j'avais, en réfléchissant un petit peu à ça, une fois ou deux avec Stuart, quand on a discuté, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on est resté aussi longtemps assis à Brighton à écouter des enseignements extraordinaires? Après, c'était pour nous le timing de Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'il y a une petite tristesse au fond de nos cœurs, parce que c'est tellement super de pouvoir... servir ici en France. Il y a des besoins, les gens sont ouverts, on parle de Dieu, les gens veulent entendre parler de ça. Et on a une petite tristesse au fond de nos cœurs, parce qu'on aurait pu, on aurait peut-être dû, mais voilà, c'est pour vous encourager, ne restez pas assis dans vos églises, bougez, partez, faites des implantations, qu'on se multiplie, parce que le monde a besoin d'être sauvé.
Merci d'avoir écouté ce message enregistré à la conférence Ascension 2018. Si vous voulez plus d'informations concernant notre famille d'église ou les événements que nous organisons, n'hésitez pas à visiter notre site internet new-ground.fr.